Rapport suivant, donc j'évoquais tout à l'heure sur les collèges, eh bien, les suites que l'on doit donner désormais au bout d'un an au rapport des chambres régionales des comptes. Donc là, il s'agit de la gestion du système d'information.
Tout à fait, il s'agit des actions entreprises à la suite du rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes, rapport qui a été donné il y a un an. Les enjeux qui ont été mis en avant, le premier, la gestion prévisionnelle des compétences, le deuxième, la dépendance aux fournisseurs, le troisième, la sécurité des systèmes d'information et le quatrième, la protection des données personnelles. Ce sont les quatre enjeux qui ont été ciblés dans le rapport avec un certain nombre de points positifs qui ont été donnés par la Chambre régionale des comptes. Le premier concerne le renforcement des compétences et le recrutement, avec le fait que le département ait lancé le recrutement d'un ingénieur chef de projet développement informatique, l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs, avec une stratégie claire mise en place pour maintenir son indépendance, la mise à jour de la politique de sécurité avec une nouvelle politique sécurité du système d'information, une sensibilisation et la formation avec des campagnes spécifiques dont vous avez tous à un moment été acteurs qui ont été organisées au profit des agents et des élus sur le risque informatique, la protection des données avec des pages bien spécifiques dédiées à ce sujet. On a aussi, comme à chaque fois, des préconisations qui sont apportées sur les enjeux identifiés, le recrutement d'experts qui sont nécessaires et qui seront réalisés au fur et à mesure des départs à la retraite, la stratégie de développement en interne et là avec des actions mise en place au travers de la stratégie autour de la plateforme logicielle dont le processus de production est maîtrisé en interne. La formation et la sensibilisation, qui sont des sujets très importants et qui se poursuit avec des actions de formation pour les agents et les élus, et la mise en conformité aux nouvelles normes avec la finalisation de la mise en conformité de la nouvelle directive européenne Network Internet. Il y a des actions de réaliser aussi depuis ces préconisations et qui faut aussi prendre en compte. C'est, donc je l'ai dit, le recrutement du chef de projet, la rédaction d'une nouvelle politique sécurité. Ça prend du temps, mais c'est important parce que ça permet de voir aussi sur le long terme les actions que l'on porte, l'organisation de campagnes bien précises et l'ajout d'une page dédiée à l'information du public sur la protection des données sur le site Internet. Donc toutes ces évolutions étaient prévues, sont mises en œuvre et viennent en lien avec ce rapport qui a été apporté. Donc voilà, Président, le reste du rapport est à disposition de chacun et Monsieur Colombel qui a dû arriver juste à temps, ce qui est très bien, pourra répondre à toutes les questions s'il y en avait.
Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce point? Oui, Monsieur Lapose.
Oui, merci Président. J'aurais eu trois petites questions, une sur le recrutement, une sur la cybersécurité et une sur la mutualisation. Dans le paragraphe 1A, en fait, on évoque le recrutement de cadres catégorie A. Donc ma question est, comment le département envisage-t-il de financer le renforcement des compétences en ingénierie, chef de projet de cybersécurité dans un contexte de contraintes budgétaires? Ces recrutements ont une incidence sur d'autres secteurs. Je continue mes autres questions. Concernant la sensibilisation aux cyberattaques, les campagnes de sensibilisation et d'exercice de cybersécurité sont une avancée, mais comment évaluez-vous leur efficacité concrète? Quels sont les retours des agents et élus concernant leur niveau de préparation face à une crise cyber? Ma dernière question concerne la mutualisation et les financements. Dans les derniers paragraphes, on mentionne les mutualisations avec d'autres départements et la région. Quelle économie concrète le département anticipe-t-il à travers ces mutualisations? Et y a-t-il des exemples concrets de l'optimisation financière qu'on a réussi à observer à ce jour? Merci.
S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose à M. Martin et éventuellement avec M. Colombel.
Alors peut-être je vais juste répondre à la, première sur le recrutement, parce que je l'ai dit dans mon propos.
Allez-y à deux voix.
Le recrutement d'experts, j'ai dit qu'il était lié au remplacement suite au départ en retraite. Donc ce n'est pas des agents en plus, c'est à chaque départ en retraite, on se pose l'opportunité de passer sur des profils d'experts, d'ingénieurs experts, pour faire évoluer les compétences en interne.
Monsieur Colombel.
Oui, alors, quelques sujets. Alors, sur le recrutement, donc on est dans un secteur concurrentiel très fort au niveau du département, puisqu'on a un pôle cyber important, et donc on a un recrutement, et qu'avec ce que l'on essaye, dans les axes de travail. La première, c'est d'accueillir un maximum de personnes dans le cadre de formations longues. Et donc ainsi, c'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est-à-dire que les personnes, une fois qu'elles réalisent leur formation longue, eh bien, continuent dans la collectivité. Alors peut-être pas aussi longtemps qu'on le souhaite, puisque évidemment, ce que je disais en préalable, eh bien, d'autres opérateurs travaillent aussi et se disent tiens, ces personnes-là sont des personnes très compétentes et elles seront très bien chez nous. On a aussi par exemple participé à des événements qui s'appellent Who Runs the Tech, qui concernent en fait les femmes dans le numérique, parce qu'on s'aperçoit que c'est un milieu qui est plutôt masculin et qu'il y a une opportunité en fait d'ouvrir ces métiers davantage aux femmes. On a aussi un problème qui est lié à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire qu'il y a des grilles de la fonction publique territoriale qui n'ont pas été actualisées avec l'arrivée du numérique. C'est-à-dire que l'arrivée du numérique, hein, on cite souvent les budgets ou les délégations qui ont été transférées au département. Eh bien, si vous prenez le budget du numérique du département il y a moins de 10 ans, je peux vous assurer que par rapport au budget du numérique aujourd'hui, on a mis énormément d'argent et donc on a un taux de progression qui, à mon avis, était peut-être un des plus élevés au niveau du département. Sur la cybersécurité, on travaille sur le recrutement, c'est pas simple, et pas à pas, on essaye d'avoir et de fidéliser les recrutements. Mais on a parfois des personnes qui sont sollicitées par d'autres organismes qui ne sont pas soumis aux règles du statut de la fonction publique territoriale, et lorsque on propose à des agents plusieurs centaines d'euros nets de plus par mois, je pense que ça peut faire réfléchir, et donc c'est à nous aussi d'être attractifs, de donner de bonnes conditions de travail et de jouer aussi sur ces questions-là. Sur la question de la cybersécurité, c'est quelque chose que l'on remet chaque jour à l'ouvrage, c'est-à-dire qu'on peut former, mais quand dans une collectivité comme le département, au bout de 2 mois, 3 mois, il y aura des gens qui n'auront pas été formés parce qu'il y aura des personnes qui auront été intégrées, parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont remplaçantes, parce qu'il y a des jeunes qu'on accueille en stage. Et donc, il suffit d'un. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... Tout le monde peut être très bien formé, très vigilant, et il suffit d'une personne qui a à un moment une défaillance, et ça peut générer le blocage de toute la collectivité. Donc, c'est quelque chose de... Chaque jour, il faut recommencer et encore. Et après, on n'est pas à l'abri. Il faut se donner les moyens d'y faire face. Donc, on a eu plusieurs attaques. On arrive à chaque fois, les services arrivent à contrer ces attaques. Et ce que l'on a mis en place, c'est un plan de continuité des services. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'on doit... On n'a plus du tout d'informatique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les services que l'on doit mettre en place en premier? Comment on arrive à communiquer entre services? Quelles sont les relations avec les élus? On a tous ces processus qui sont mis en place. Sur la mutualisation, alors le département fait partie de ce qu'on appelle l'association CapDemat, qui vise à créer en fait une plateforme collaborative entre différentes collectivités territoriales. Il y a à peu près 25 départements, et donc tous les départements qui travaillent sur des projets. Donc, on va prendre le cas de l'Ille-et-Vilaine quand on a créé la plateforme de rendez-vous pour la PMI. Eh bien, quand on a créé ce service, eh bien, on le met dans la plateforme de CapDemat et après, les adhérents de CapDemat peuvent utiliser en fait, cette plateforme. Et c'est le cas où nous, on utilise des services d'autres départements. Donc, c'est ce qu'on appelle la mutualisation. Et puis aussi via le CIB. Alors, le CIB, on intervient notamment dans la numérisation des collèges, mais on a également le SDIS qui est adhérent, Mégalis également. Et donc là aussi, il y a des travaux réalisés pour mutualiser. Alors, il se trouve que l'Ille-et-Vilaine était le premier département. Donc, on va dire que ce n'est pas nous qui avons bénéficié le plus de la mutualisation, mais maintenant, eh bien, le 56 va avoir le déploiement du numérique dans ses collèges, le 22 également. Donc, ils vont bénéficier en fait, de l'expérience qu'on a pu avoir, ou en tout cas des difficultés qu'on a rencontrées, et donc éviter ces difficultés. Et en conclusion, peut-être qu'on a toujours l'habitude en fait, d'avoir dans des rapports de la Chambre régionale des comptes de nous dire « vous avez des pistes d'économie ». Eh bien, dans ce rapport, il n'y a pas de piste d'économie, il y aurait plutôt des pistes de dépenses. Je dis ça, je ne dis rien, Monsieur le Président, à l'aube de préparation budgétaire, mais en tout cas, c'est un rapport qui indique qu'il n'y a pas d'économie à faire dans les dépenses qui ont été réalisées sur le numérique. Ça veut dire que les dépenses ont été bien faites, au contraire, plutôt de nous dire d'aller davantage sur ces questions qui sont des enjeux majeurs dont on n'en est pas l'abri.
Vous avez raison, effectivement, de pointer ce point. Rare, en effet, de voir une chambre régionale des comptes inviter une collectivité à conforter ses moyens, tant sur le plan du niveau d'expertise que plus globalement, y compris en termes d'effectifs, ce qui montre aussi la rigueur et la sobriété qui prévalent dans nos services, même si parfois on arrive un petit peu au bout de l'exercice. Puis souligner aussi que nous sommes sur une plaque numérique à Rennes extrêmement performante, mais aussi où la concurrence, bien sûr, est extrêmement forte et que de très, très grands opérateurs, y compris le pôle cyber de la défense, parce que c'est devenu, avant on disait il y a trois armes dans la défense, la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre. Maintenant, le cyber a le statut de quatrième arme à part entière et Rennes est la capitale nationale du pôle cyber. Alors, bien sûr que là, il peut y avoir parfois des mises en concurrence sur lesquelles on n'est pas en capacité de s'aligner avec les grilles de la fonction publique territoriale. Mais néanmoins, bon, je pense que la démarche qui se met en œuvre bien tend vers la mise en œuvre de ces recommandations, mais avec des contingences, bien sûr, qui sont les nôtres. Alors, je vérifie s'il y a... c'est un donné acte, hein, me semble-t-il. Et de transmettre, bien sûr, à l'issue de ce rapport, on le transmet à la Chambre régionale des comptes pour lui montrer qu'on a bien entendu et qu'on est très attentif au respect des procédures qui s'y rattachent.